Et bienvenue sur Raise by Mobiskill, le podcast qui traite de la parité homme-femme dans la tech. Mobiskill est un cabinet de recrutement spécialisé dans les profils R&D. Nous accompagnons les sociétés dans le recrutement tech depuis 10 ans. Nous sommes partis d'un constat simple. Seulement 9% de nos placements sont des femmes et seulement 1% de ces placements sont sur des postes en C-level. Le projet Raise a pour but de mettre à disposition du contenu, des tables rondes, du coaching et plus, afin d'accompagner ces profils féminins à évoluer dans leur carrière. Salima et Darcy accueillent au micro des acteurs du numérique pour parler de leur expérience, donner des tips et mettre en avant les bonnes pratiques en toute bienveillance. Bonne écoute!
Bienvenue sur ce nouvel épisode Raise. Aujourd'hui, nous accueillons Rassam Yagmaï, Talent Acquisition Director chez Doctolib. Bonjour Rassam, comment vas-tu?
Bonjour Salima, très bien.
Ok, alors on y va. Des premières questions qui sont relativement faciles, mais il faut que tu nous dises la vérité. Concert de rock ou de rap?
Ouh, direct, ça va dans les, dans les choix perso. Bien sûr, rap, je pense que ce ne sera pas une grande surprise.
D'accord. Le groupe préféré du coup? Ou le dernier concert?
Concert, j'ai jamais été trop concert, mais je pense que mon groupe préféré, c'est, si peu de gens connaîtront, c'est Nizé, c'est Salif et XS, Pont de Sèvres.
Ok,
très bien.
Basket ou foot?
Complètement foot.
Très bien, tes pronostics?
Je suis pas très fort. On a d'ailleurs lancé une plateforme là. Alors c'est, ouais, MPG, je me fais toujours ruiner par mon équipe à MPG. Et donc, du coup, là, il y a une plateforme chez Doctolib qui a été lancée sur les bets pour l'euro, des paris en ligne, enfin des paris internes, quoi. Et je n'ai même pas participé à quel point, pour te dire, pour ne pas ruiner les chances de mon équipe, parce que c'est par équipe. Mais clairement, bah, si j'ai une préférence, c'est pour l'équipe de France, évidemment.
Évidemment.
Iron Man ou Tony Stark?
Oh là là. C'est la dualité du personnage, quoi. J'ai vu les premiers Marvel, je crois, très récemment. Genre, j'ai toujours pas vu les Star Wars et tout. Donc, pour vous dire, je suis pas un grand cinéphile science-fiction. Mais j'aime bien Stark. J'aime bien son personnage. Derrière son masque, on peut pas vraiment voir son côté un peu cynique.
Bonne réponse.
Télétravail ou vacances illimitées?
Waouh. Télétravail. J'ai jamais eu de vacances illimitées. J'ai jamais été dans des boîtes qui en proposaient. Et je pense que je m'en servirai pas beaucoup. Je suis le genre de work alcoolique qui aime bien bosser. Donc plutôt bosser dans de bonnes conditions avec du remote, tout ça, le travail.
Super. Ok. Management technique ou management coach?
Management coach, plutôt, je pense. Je sais pas ce qu'on y met derrière, mais je pense qu'on est plus dans le coaching que moi j'ai appris le management. C'est en étant très bon dans ce que je faisais, donc avoir une expertise technique dans ce que je fais et ensuite le transmettre. Donc c'est un petit peu des deux, mais je dirais quand même plus coach.
Ok. Et enfin, inclusion ou diversité?
Deux grands mots. Je dirais l'inclusion, parce qu'en fait l'inclusion, c'est, on va un peu plus loin que la diversité. Une fois que on parle d'inclusion, c'est qu'on veut faire survivre la diversité dans le temps, donc plutôt l'inclusion.
Eh ben super. Darcy.
Maintenant, on va parler un peu de toi, de ton parcours. Présente-toi, qui tu es, quelles sont les principales étapes de ta carrière?
Donc, je suis Rassam. Je travaille dans le recrutement depuis un petit bout de temps maintenant, ça fait 10-15 ans. Et je suis tombé dedans par hasard, comme beaucoup d'entre nous, je crois. Par la petite ou la grande porte des cabinets de recrutement. J'ai commencé dans des agences londoniennes qui ont ouvert des branches à Paris, des compétiteurs de S3. j'ai des managers qui m'ont beaucoup parlé de Salima d'ailleurs, c'était un peu une référence, fallait aller choper les clients de Salima.
Ravi d'avoir été une référence et d'avoir été la target.
C'est une resta, Salima.
Il y a des noms comme ça, ouais, Salima connaît de prog, Salima connaît de prog et tout. C'était pendant que tu es en train de prendre ton café, Salima elle est en train d'appeler ton client pour le closer.
Et moi, on me disait la même chose te concernant, ouais. Donc tu vois, voilà. Il y avait aussi Suela. À l'époque,
oui,
Suela Merabiti.
Comment il s'appelle? Il y avait un jeune homme, Mathieu.
Ricourt.
Voilà, Mathieu Ricourt. Enfin, il y avait pas mal de noms comme ça.
Ils se sont d'ailleurs associés, hein.
Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai pour, je sais plus,
Paris Open Makers, mais.
Mais oui, oui, il y avait des noms. Donc, c'était dans ce petit milieu très transactionnel, compétitif, anglo-saxon, que j'ai navigué au début. J'appelle ça un peu l'école de la rue du recrutement, souvent dans d'autres plateformes. Mais en fait, j'ai fait 5 ans et 5 ans dans deux boîtes assez différentes. Après, c'était Robert Walters qui était une marque un tout petit peu différente, un positionnement différent. Mais en gros, c'était 10 grosses années en cab. Sur les métiers IT, digitaux, etc. Et puis, j'ai fait le passage en interne, in-house, il y a 6 ans, où j'ai d'abord rejoint un éditeur de logiciels franco-américain qui s'appelle Axway. J'ai fait 2 ans là-bas, où j'ai découvert le champ des possibles quand on quitte le côté un peu binaire du recrutement en cabinet. Et après l'avoir découvert, ça m'a vraiment donné envie de continuer. Et j'ai eu l'occasion de rejoindre Doctolib, il y a 4 ans maintenant, à une période super intéressante.
C'est dingue, 4 ans. Moi j'ai l'impression que ça fait 10 ans que tu es chez Doctolib. Toi aussi, peut-être d'ailleurs.
Ouais, je pense que c'est l'effet loop de la croissance, les startups, etc. Tu as l'impression d'avoir 1000 vies en peu de temps. Mais c'est vrai, je pense avoir beaucoup plus grandi personnellement, humainement, professionnellement dans les 4 dernières années que probablement sur les 10 premières.
Justement, parle-nous de ton aventure Doctolib. Pourquoi tu les as rejoints et quelle est la valeur qui te parle le plus ?
Ok, en fait, moi, j'ai rejoint Doctolib. On m'a approché alors que j'étais chez Axway. Évidemment, je connaissais Doctolib. J'utilisais Doctolib à titre personnel. Je suis papa de petite fille. Donc, à titre perso, c'était déjà dans mon intimité, je dirais, Doctolib et la valeur du produit, je le voyais. Par contre, j'avais aucune idée de ce qui se cachait derrière, en fait, l'entreprise, la boîte, les gens qui étaient derrière le produit. Et j'avais pas forcément, du coup, une vision incroyable de se dire que c'était forcément la boîte que je devais rejoindre. Mm-hmm. J'étais peut-être dans un prisme un peu plus fermé, avec des codes classiques de, voilà, il y a les cabinets, il y a les clients finaux, les grandes boîtes, les groupes du CAC 40. Le monde startup, je le connaissais vraiment d'un peu de loin. Mm-hmm. Et surtout, j'associais pas du tout Doctolib à une startup dans ce sens-là. Je le voyais comme une espèce de filière de le ministère de la Santé, un truc un peu poussiéreux, etc.
Et tu t'es dit, mais pourquoi il m'appelle pour aller travailler pour le ministère de la Santé, quoi ? Je suis une star du recrutement.
Non, mais finalement, quand j'ai entendu Doctolib, j'ai eu le premier réflexe d'un recruteur, à savoir, ok, est-ce que j'ai envie de recruter et parler, d'être ambassadeur de la marque. Et tout de suite, sans même me dire est-ce que c'est une boîte cool ou pas cool, je me suis dit oui, je vois l'impact que ça peut avoir. Et après, derrière, quand j'ai rencontré les différentes personnes, j'ai rencontré Agnès Bazin, qui est directrice du développement aujourd'hui chez Noom, qui à l'époque gérait toute la partie RH, people, recrutement. Et puis toutes les différentes personnes, les cofondateurs, Jesse, Stan, etc. J'ai été vachement inspiré. Je me suis dit ok, il y a un truc qui se passe, il y a quelque chose d'assez différent. Et donc voilà, c'était mes premiers contacts avec Docto.
D'accord. Bon, je tiens à le dire, puisque Rassa m'a dit qu'il était papa. Darcy, je tiens à souligner quand même, parce que vous ne pouvez pas le voir, mais il a un très très beau t-shirt.
C'est vrai.
Il a écrit Super Papa.
Super Papa. Ouais,
c'était pas prévu, mais on me l'a offert avant-hier.
Et voilà. Mais super, super inspiration. Et donc du coup, sur quoi on te fait confiance aujourd'hui et comment tu te sens valorisé, comment on te valorise chez Doctolib?
On me valorise avec un très 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 gros salaire. Non.
Appel à candidature.
Oui, venez, on paye très bien. Non. Alors, plus sérieusement, on m'a fait confiance. En fait, je pense que la mission de départ reste plus ou moins toujours la même, à savoir construire une équipe de recruteurs qui vont aider à faire grandir la boîte de l'intérieur sur des populations bien spécifiques, puisque moi, je suis en charge du recrutement chez Doctolib sur la population tech et product. Et quand j'ai rejoint la boîte, j'étais le premier tech recruteur, en tout cas, j'étais un des premiers tech recruteurs, et il fallait scaler les équipes tech et produits d'environ 15-20 personnes jusqu'à aujourd'hui, on est aux alentours de 400-500 dans les équipes tech produits et on sera un peu plus de 2000 employés. Donc, j'ai rejoint une grosse start-up maintenant qui est devenue un petit peu plus une PME avec des grosses ambitions. Donc, c'est toujours la même chose. On me fait confiance pour soutenir l'effort de croissance de la boîte, du produit à travers le recrutement de ces populations clés tech et produits.
D'accord. Et qu'est-ce que tu kiffes dans ce métier, du coup ?
Ah bah, moi, je suis rentré par la porte du recrutement, comme on disait, très transactionnel. Donc, je suis assez salesy dans l'âme. Ce que j'aime, c'est de recruter, d'avoir des objectifs, de les atteindre, de surperformer et de pouvoir le faire dans un contexte où l'impact pour lequel on travaille dur, la mission de la boîte et l'aventure de l'intérieur qu'on vit, ça c'est vachement kiffant, pour reprendre ton terme.
Ouais, moi si tu me diras, pitcher Doctolib en tant que recruteur,
ça marche, ça doit
faire du sens.
Il y a plus dur.
Non, c'est génial.
Je vais pas faire la classique des adtech, des banques, des assurances, etc. Mais c'est vrai que c'est plus facile de parler de Doctolib en tant qu'employeur, même si ça reste toujours dur, puisqu'on doit se battre avec d'autres superbes boîtes qui ont des super produits, des super équipes, des super salaires, etc. etc.
D'accord, ok, super. Du coup, tu es arrivé en premier, tu as monté effectivement toute une équipe.
Et tu nous as aussi dit que le passage de cabinet à recruteur in-house t'a amené à te remettre en question après 10 ans d'expérience. En quoi ?
Ouais, je pense que le passage in-house à cabinet, forcément, t'ouvre le champ des possibles sur plein de choses. Donc, de manière très basique, en cabinet, c'est souvent de trouver un client qui te fait confiance, qui te mandate sur une mission. Et puis toi, derrière, il faut lui amener des profils, des CV, des candidatures, chose qu'en interne, évidemment, tu fais, c'est un peu aussi la même chose, mais tu as des canaux d'acquisition qui vont être un peu plus riches. Tu peux avoir des candidatures entrantes, tu peux avoir des cooptations directement, tu peux faire vivre ce vivier. Évidemment, tu peux le faire en cabinet, mais quand tu es à l'intérieur, tu peux avoir une responsabilité beaucoup plus forte et un impact beaucoup plus fort. Ça, c'est dans n'importe quel switch, je dirais, cabinet-entreprise. Et ensuite, moi, quand je suis arrivé chez Doctolib, effectivement, j'ai l'impression dans une autre ligue encore, puisque en termes d'exigence, de vitesse d'exécution, de niveau d'exigence, de structuration des process, etc., j'avais pas encore été confronté à ce niveau-là, tout simplement. Et je pense que j'ai recruté dans l'IT, j'ai pas les chiffres, mais imaginons, je sais pas, plus de plusieurs centaines, je dirais peut-être pas des milliers, mais plusieurs centaines, peut-être avec mes équipes plusieurs milliers, mais à titre personnel, plusieurs centaines de candidats dans plein de boîtes. Au moment où je suis rentré chez Doctolib, je me suis dit, ok, parmi tout ce beau petit monde, combien d'entre eux est-ce que aujourd'hui je pourrais recruter dans mon poste? Pour plein de raisons, il n'y a pas que le niveau technique, l'ambition, le salaire, le fit, etc. Et donc tout ça m'a fait devoir me remettre pas mal en question. J'avais une vision très old school aussi du monde de la tech, parce que, comme je disais, j'avais pas encore fait le switch vraiment start-up. Et donc, je vais dire des gros mots, mais je venais plutôt d'un monde DSI, AMOA, gestion de projet, etc. Et le cycle en V, etc. Donc, tous les best practices du développement, on va dire, craftsmanship, etc., j'ai dû un petit peu me remettre dedans, ce qui était vachement intéressant. Et donc aujourd'hui, on en apprend forcément tous les jours. C'est un milieu qui évolue tellement vite, où il y a tous les jours des trucs qui se passent.
Et est-ce que ça te manque, le boulot de chasseur de tête, tu sais, faire des deals, closer les mecs, l'adrénaline, tous ces trucs-là?
Alors, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, ce côté, c'est vrai que j'ai plus de cloche et je tape plus sur les bureaux quand on fait un placement. Mais je pense qu'on a une équipe qui est vraiment incroyable et je leur fais toujours un petit big up dès que je peux. C'est vrai qu'il y a une ambiance qui est vraiment folle. quand on fait des, quand on a des belles performances, etc., on réussit quand même à pouvoir les célébrer. Donc aujourd'hui, avec Covid, c'est un peu difficile de se voir et de les célébrer vraiment comme on voudrait, mais bientôt, j'espère. Et donc, je pense qu'on garde ce côté performance. Moi, je reste un closer. J'ai envie toujours de faire le maximum de, que ce soit placement, deal, recrutement, on s'en fout comment on les appelle. Finalement, c'est d'atteindre tes objectifs. Il y a un truc qui me manque parfois, et je l'ai dit récemment, c'est le côté, en cabinet, tu peux te permettre d'être très cynique face à ce qui t'arrive. C'est-à-dire que ton client, à un moment donné, tu l'accompagnes. S'il ne t'écoute pas, si ça ne marche pas, tu peux passer à autre chose. Ce côté un petit peu variété et cynisme que tu peux te permettre d'avoir en interne, c'est un peu différent. Ouais. Tout le monde est à bord du même bateau et il faut le faire avancer.
Ouais. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'en interne, Terry Manager reste Terry Manager. Tu ne peux pas en changer.
Oui, c'est sûr.
Tu as plutôt intérêt, effectivement, de fédérer autour de comment tu recrutes, de comprendre leurs problématiques, de les accompagner et vraiment de les gérer aussi et de les... Ouais. Donc, c'est de négocier, parce que je pense qu'en interne aussi, hein, ça négocie pas mal. Ouais. Et puis, ce qui est toujours bien, c'est que tu les rencontres aux toilettes, à la cantine. pour avoir vécu ce switch-là, c'est, ils sont toujours prêts à venir te demander des CV à n'importe quel moment de la journée.
Oui, c'est vrai qu'en cabinet, tu as ton coin hebdo, tu le prépares. Et ils peuvent te prendre plus en traître au coin d'un couloir. Mais en vrai, c'est beaucoup plus dans le positif. C'est juste de collaborer à fond et de voir à quel point on peut avoir un impact sur le niveau de décision et le choix que prend une entreprise.
Ouais, et puis je pense que chez vous, quand même, les gens, vu comment vous avez scalé, doivent être quand même hyper impliqués et demandeurs.
De fou. Donc, ouais, un peu trop parfois.
Bah ouais, mais
calmez-vous, je vous passe le message. Laissez-nous tranquilles. Non, en vrai, c'est ça. C'est que, d'ailleurs, c'est quand j'ai en entretien pas mal de recruteurs et je leur demande, parle-moi de stakeholder management, la gestion de hiring manager, etc. Il y en a beaucoup qui instinctivement me disent, dans ma boîte aujourd'hui, c'est dur, il faut leur courir après, avoir des feedbacks, ils remplissent pas ci, ils font pas ça, ils me donnent pas des feedbacks sur mes CV. Je les arrête, je leur dis aujourd'hui c'est totalement l'inverse, il faut se dire que tout le monde est tellement impliqué, tellement à fond, ils veulent nous aider et ils nous aident vachement, on est vraiment une équipe de recrutement avec eux, mais parfois du coup faut aussi faire sa place là-dedans et se dire que on a aussi il nous faut du temps nous aussi pour réfléchir et avancer sur les sujets.
D'accord, génial. Et justement, puisque tu faisais un big up à ton équipe, aujourd'hui, elle est constituée, tu me diras si je me trompe, d'à peu près 20 personnes. Toutes, que ce soit des sourceurs, des leads, des talent acquisition. Parlons un peu de cette équipe, comment tu l'as composée ?
Oui, carrément. Donc, ça a pas mal évolué depuis le moment où je suis arrivé, notamment en nombre, puisque j'étais tout seul. Et aujourd'hui, effectivement, on est une vingtaine. Et ensuite, ça a pas mal évolué aussi dans la constitution, le rôle de chacun. Quand je suis arrivé, schéma assez classique, j'ai recruté des recruteurs 360, des recruteurs 360 qui avaient l'habitude de prendre un besoin, de pouvoir rédiger des annonces, de pouvoir les mettre en ligne, de faire de la cooptation, de faire du sourcing sur LinkedIn, d'engager, de coacher des candidats, de faire un peu de process, d'optimisation de process, de pousser un petit peu des candidats ou des décisions, de faire du closing. Donc tout ça, c'est le process classique. Et donc ça, c'est évidemment ce qui a fallu pour lancer l'équipe. Très vite, on a commencé un petit peu à se spécialiser, un peu comme en cabinet, de se dire, certains vont être plus focus sur des profils produits ou développeurs, ainsi de suite. Mmh. Et depuis maintenant 18 mois, on a poussé une vision un petit peu plus nouvelle, je dirais, de répartition des tâches. C'est tellement important le temps dédié à chaque tâche des étapes de recrutement qu'on a poussé donc le modèle de sourceur et de recruteur.
D'accord.
Et de coordinateur. Donc ces trois fonctions-là vont vraiment bosser en symbiose, en équipe. Pour se dire que, par exemple, le top of funnel, tous les canaux d'acquisition du recrutement sont gérés par l'équipe sourcing, mais à un niveau très stratégique. Donc, on ne va pas d'attendre d'eux d'être simplement des pourvoyeurs de CV, mais vraiment de définir la stratégie de sourcing, définir les updates, comment on doit s'adapter, les insights du marché, etc., etc. alors que le recruteur va être beaucoup plus orienté vers l'interne, une fois que les candidats de l'externe arrivent dans notre funnel à nous, de savoir comment on peut optimiser ça pour s'assurer qu'on n'en perde pas une miette, que nos recrutements soient structurés, les entretiens, qu'il n'y ait pas de biais, et qu'on fasse les meilleures décisions, et que les candidats aient envie de l'accepter, évidemment, si on leur fait une offre.
Bien sûr. Ok, non, super, c'est vrai que super intéressant, je te rejoins, moi, sur le... C'est vrai que le sourcing, c'est un vrai métier. En tout cas, il peut être décorrélé de celui qui est un peu l'évaluateur lors de l'entretien, parce que c'est vrai que, par exemple, moi, je pense que je suis nulle en sourcing.
Mais voilà. Le sourcing, c'est vrai que...
C'est un vrai métier.
C'est quelque chose qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde, une grande partie du marché européen, français aussi, a compris l'importance du sourcing, au-delà de simplement d'être capable d'identifier des gens, d'envoyer des CV, ou de trouver des personnes. Mais... Je me faisais la remarque récemment dans une autre conversation à quel point en cabinet par exemple les très bons recruteurs étaient des très bons commerciaux, on est d'accord, on décrochait notre téléphone, on devait être ingénieux, créatif pour accrocher un prospect, aller choper un rendez-vous, le convaincre après de signer, de bosser avec nous, donc on était capable des pires stratagèmes, je dirais, et très créatif pour le coup pour arriver à ça. Je pense qu'on a mille anecdotes à raconter, et après derrière, une fois qu'on avait le client, on dédiait très peu de temps finalement ou de ressources. On avait des chargés de recrutement qui avaient peu de moyens. Et en fait, on se disait, bon, maintenant, voilà, trouve-moi ces CV. Ou nous-mêmes, on accordait un peu de temps pour aller sur Monster ou sur LinkedIn. Et en fait, toute cette créativité-là, on ne faisait pas trop le lien. C'est aussi important la façon dont on approche ces candidats. Et donc, moi, j'ai découvert ça avec justement l'arrivée en in-house côté Axway quand j'ai rencontré Paul et Abraham notamment. Paul Moucher maintenant qui est manager de l'équipe sourcing chez nous. Et voilà, c'est là aussi j'ai appris plein de choses sur comment je pouvais moi illustrer cette créativité pour des démarches beaucoup plus orientées candidat et du sourcing et de l'expérience candidat.
Ouais, c'est clair, super, super intéressant. Et donc du coup, comment elle est composée ton équipe? Est-ce qu'elle est paritaire? Parce qu'on est quand même là pour parler recrutement, tech, parité.
Bah, c'est une bonne question. Et je vais d'ailleurs ouvrir, parce qu'on a, tu sais, on a un SIRH Workday qui, de mémoire, sur mon dashboard, peut me dire très facilement aujourd'hui, en termes de parité, où j'en suis. Je vais voir en même temps si j'arrive à le trouver, mais... en gros, on est une vingtaine aujourd'hui. Je dirais que la parité, elle est respectée, ou en tout cas dans le sens où on l'attend souvent, où est-ce qu'il y a plus de femmes ou d'hommes. Il y a plus de femmes, de représentation féminine dans l'équipe aujourd'hui que de mecs. C'est pas ultra étonnant dans le milieu du recrutement. Il y a quand même, ça a toujours été. Alors c'est vrai que c'est un milieu parfois qui peut être justement dans ce qu'on disait, la célébration, le côté un petit peu graveleux qui existait en cabinet. Ça pouvait être un peu difficile, je pense, pour des femmes. Aujourd'hui, j'ai l'impression quand même que, notamment quand on est in-house, le narratif, il est beaucoup plus chargé de recrutement, RH, etc., qui étaient plutôt des fonctions qui pouvaient avoir une parité plutôt. Donc là, je ne l'ai pas trouvé, mais je pense que c'est plutôt du 60-40, 60% en faveur des femmes. Ouais.
Ouais. D'accord, ok. Alors, de toute façon, en cabinet, on avait l'habitude de dire que les top performeurs étaient des femmes. Je ne suis pas étonnée.
Oui, mais ça allait avec son lot de clichés, non? Combien de fois est-ce qu'on disait oui, mais... Et elle arrive à choper plus de rendez-vous parce que c'est une fille, exact. Elle joue de ses charmes, etc. Donc en vrai, finalement, il y avait beaucoup de biais aussi.
Très clairement. Ok, et alors quel conseil, je pense que c'est clé maintenant avec toute l'expérience que tu as, quel conseil tu donnerais justement à... un head of talent ou en tout cas quelqu'un qui arrive dans une scale-up en tant que premier justement premier membre de la team et qui doit monter une équipe from scratch, quel conseil tu pourrais donner à cette personne?
Je pense que chaque contexte de boîte est tellement différent, comme on disait en préambule, le produit, la boîte que tu pour laquelle tu bosses et que tu vas vendre au candidat, et j'ai l'impression qu'elle donne tellement de tendances. On a la chance, par exemple, chez Doctolib, quand je suis arrivé, d'avoir de manière générale, alors c'est pas toujours vrai à la tech, mais d'avoir en France quand même une autorité qui nous permettait d'avoir un nombre d'inbound intéressant et qui permettait, sur plein de fonctions comme au support ou au sales, de pas forcément devoir aller chercher des candidats en sourcing, par exemple.
D'accord.
Donc bon, le contexte est de chaque boîte va être vachement différent, j'imagine, et puis les ambitions qu'on met dedans, est-ce que c'est une boîte qui va être en croissance, hyper-croissance, plutôt en mode je fais rentrer 200 personnes, j'en recrute du coup 200. Mais je pense qu'il y a des trucs qui marchent à chaque fois. C'est de se dire qu'il faut une équipe qui est complémentaire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a assez de ressources et il y a assez d'exemples pour comprendre où sont tous les différents steps, les compétences qu'on recherche. Et donc, la première chose que je dirais, c'est de ne pas aller trop vite dans le recrutement de ces équipes-là. On est très forts, nous, les recruteurs, pour demander aux managers de penser à un process, de faire des entretiens structurés, de savoir quelles compétences clés ils veulent aller chercher. Et on, un peu les cordonniers les plus mal chaussés, on accorde pas forcément autant de temps à nous-mêmes pour se challenger. Et donc, je ne l'ai pas fait tout de suite, hein, mais aujourd'hui, par exemple, quand on recrute quelqu'un, y a vraiment un comité, il y a un process. Enfin, comité, ça fait gros mot tout de suite, mais c'est pareil. Donc, tout le monde a son mot à dire. On sait très clairement ce qu'on cherche en termes de compétences. Et à la fin, on prend des décisions aussi en termes de complémentarité, de se dire qu'est-ce que les personnes vont apporter dans l'équipe. Notamment, à un moment, je suis passé par une étape où je recrutais presque exclusivement des personnes qui viennent du monde in-house, scale-up, start-up, pour tout de suite être un peu plug-and-play. Et je pouvais être un peu plus réticent quand c'était des candidatures venant de cabinets de recrutement, parce que je voyais le gap qu'il pouvait y avoir pour l'avoir fait moi-même.
Ouais, c'est clair.
Et aujourd'hui, je me dis, c'est aussi notre rôle, maintenant qu'on est une équipe, de permettre ce palier en détectant le potentiel de certaines personnes. Donc aujourd'hui, on a une équipe beaucoup plus homogène en termes de background. Donc c'est pas que des gens qui viennent d'autres scale-up ou d'autres GAFA, etc. Mais il y a aussi plein de gens qui viennent de cabinets de recrutement, mais qui vont être complémentaires, parce que ça nous fait du bien aussi parfois de revenir aux basiques qu'on peut perdre de vue.
Ouais, mais super intéressant. Hein. C'est ok, très très bien. Bon, avis aux amateurs ou aux amatrices.
Ouais, on recrute toujours. On est plus de 60 recruteurs chez Doctolib sur plein de métiers différents et de sourceurs. Et on recrute, on va sûrement doubler de taille dans les prochaines années. Donc il y aura des postes un petit peu partout, les sourceurs, les coordinateurs, les recruteurs, un petit peu partout en Europe.
Ok, très très bien. Écoute, génial. Bon, on vous souhaite bien du courage. On sait qu'on en parlait quand on arrivait. Que la fonction de recruteur, notamment tech, elle aussi commence à devenir un peu pénurique.
Ouais.
Ouais.
Donc voilà, c'est un peu tout le monde, effectivement, est à l'affût.
Eh bien, justement, on va parler un peu de recrutement paritaire, de recrutement tech et de pénurie, tout simplement. Tu as une approche très data-driven du recrutement. C'est essentiel pour scaler dans un contexte aussi pénurique, parce qu'il faut le dire, les devs, on n'en trouve pas partout. Et du coup, comment on impulse le sujet du recrutement paritaire alors que ton objectif premier, c'est de recruter ?
Ouais. Y a deux éléments. Il y a effectivement l'approche un petit peu data-driven qui permet de d'avoir une vision un peu plus claire de quelle est la réalité du marché et quels sont nos objectifs et quel est le gap entre nos objectifs et cette réalité-là. Et ça, déjà, premièrement, le fait d'avoir induit une façon de travailler où la mesure de la faisabilité de ce qu'on veut faire est un peu dans notre quotidien, peu importe que ce soit dans le recrutement paritaire ou n'importe quel recrutement, on se dit « Ok, voici notre talent pool, voici ce qu'on veut faire », et d'analyser un petit peu ce qui s'est passé avant en termes de données, de combien d'input il nous faut pour arriver à tel résultat, etc. On l'a effectivement appliqué au recrutement paritaire, et c'était important de passer par cette première phase-là, puisque c'était plus facile pour nous de dire « Ok, voilà où on en est, voilà l'état des lieux, entre guillemets, de la parité dans nos équipes tech ». Après, on a zoomé très vite, effectivement, dans les équipes de dev, puisque, comme tu disais, c'est souvent les équipes qui sont les plus mal représentées dans la tech et le produit. On en a un peu plus côté produit, par exemple, des femmes que des développeuses. Et c'était important déjà d'avoir des chiffres un peu concrets, de les benchmarker avec ce qui se faisait et de se dire... Est-ce que c'est réaliste pour nous de se dire on veut passer à 50% de parité? Ça, c'est, évidemment, c'est pas réaliste. Et donc, de se donner des jalons un peu plus réalistes au fur et à mesure. Donc, c'est comme ça un peu qu'on l'a approché, de manière un peu humble, de se dire, à notre niveau, dans l'équipe recrutement, on peut sûrement faire des actions très, très simples pour améliorer tous les jours notre représentativité de femmes dans les équipes dev.
Ok, et parce que c'est vrai que tu nous avais dit en préparation que notamment c'était des sujets qui avaient été pris aussi à bras le corps par ton équipe, du côté de l'équipe tech, engineering, est-ce que aussi tu as eu des invitations à ça et comment ils ont été réceptifs à cette...
Je pense que tout le monde a envie de bien faire sur ce sujet. Ce serait hypocrite de dire qu'aujourd'hui, c'est même presque mainstream. C'est l'inverse qui serait étonnant, de quelqu'un dire au final, on s'en fout un peu de la parité, on avance tête baissée, etc.
S'il y a des femmes, tant mieux.
Après, c'est un vrai sujet parce que faut pas se mentir. Nous, tous les trois mois, évidemment, on a des super initiatives. On arrive sur certains mois d'avoir des résultats super encourageants. Et après, quand t'es dans le dur, quand t'es en retard sur tes chiffres, quand le produit a besoin de lancer des features et quand le business a besoin, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Est-ce qu'on revoit à la baisse nos ambitions? Est-ce qu'on fait des compromis? Évidemment, il faut faire parfois des compromis, mais c'est là où l'importance du leadership, du sponsorship, d'où ça vient? Est-ce que ça vient que de nous? Est-ce que c'est le recruteur qui pousse ça? Est-ce que c'est le business qui le pousse davantage? On a la chance, par exemple, aujourd'hui, d'avoir notre CTO, Philippe Vimard, qui est convaincu de ça, qui même lui sera le premier. Évidemment, il va pas dire on arrête tout et s'il faut prendre 2 ans de retard, évidemment que non. Mais c'est pas du tout celui qui va dire oh là là, non, enlevons-nous cette contrainte, ce caillou dans la chaussure, et après on en reparlera plus tard. Et donc ça, c'est déjà important, et notamment pour une boîte comme la nôtre, qui... En fait, c'est beaucoup plus facile, selon moi, je ne suis pas un expert du sujet sur ce topic-là, mais pour moi, c'est beaucoup plus facile pour Google, Facebook aujourd'hui d'avoir une ambition de 50% de parité, parce qu'ils ont, évidemment, c'est des énormes mastodontes qui continuent à grandir, mais nous, on est dans une phase d'hypercroissance tellement forte que déjà pour maintenir le niveau qu'on a eu, donc on en reparlera peut-être après, mais par exemple, admettons, tu as 15% de femmes devs dans tes équipes sur une population de 50 devs au global. Quand tu recrutes 10 devs par mois, ne serait-ce que pour maintenir ces 15%, il faut que tu aies 2-3 recrutements de femmes par mois. Et donc, rien que sans c'est parler énorme. Même de progression, c'est un énorme investissement de notre côté. Et donc, on a fait plein de choses cool sur les 24 derniers mois là-dessus, mais il faut toujours relativiser dans le sens où on est en hypercroissance et ne serait-ce que de maintenir quelque chose de stable et de ne pas régresser. C'est ça qu'on est. À la limite, notre objectif, nous, c'est pas de régresser. Et après, il y a plein d'autres choses que simplement de recruter des gens. On en parlait tout à l'heure, diversité versus inclusion, et de le rendre sustainable dans le temps.
D'accord. Mais vous êtes quand même passé de 16, c'est toi qui t'as dit, de 16 à 21%. En tout cas dans les équipes produits, data et engineering, qu'est-ce que vous avez mis en place? Comment vous avez réussi à progresser?
Ça a été un chemin assez long avec les efforts de tout le monde. Pour le coup, là, toutes les équipes ont été sollicitées. C'est parti de plusieurs personnes de bonne volonté, notamment dans mon équipe, il y a Maureen Prével qui a voulu vraiment prendre ce sujet-là à bras-le-corps. Dans d'autres équipes de dev, elle a trouvé des relais qui pouvaient nous aider. Donc, ils ont constitué un petit peu une task force qui avait envie de réfléchir sur le sujet. Et ensuite, il y a eu la phase, premièrement, de se dire ce qu'on disait, de regarder un peu les chiffres, de se dire OK, c'est quoi, quel pourrait être un objectif réaliste qu'on pourrait se fixer. On a pris beaucoup de retours de nos recrues. Donc, on avait quand même quelques femmes heureusement, dans les équipes dev. On est allé leur demander pourquoi est-ce que vous vous êtes venus, qu'est-ce qui manquerait pour attirer plus de femmes. Donc on a fait un peu ce travail de questionner, et puis aussi nos candidats du marché qui pouvaient nous donner des insights intéressants. On a regardé ce qui avait bien marché avant, est-ce qu'il y avait des sources, des job boards, des events, des choses comme ça qui avaient bien marché, comment on pouvait peut-être investir davantage sur ces canaux-là. Et après, chacun à son niveau, que ce soit les équipes qui sont les devs eux-mêmes, elles-mêmes, d'avoir plus de temps, par exemple, pour participer à des events, d'aller parler, d'aller créer du contenu, des articles à partager. Et de notre côté, nous, on ne peut pas tout le temps créer, on va dire, du contenu. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est recruter et de recruter de manière plus diverse. Et donc là, on a commencé à dédier du temps spécifique dans ce qu'on appelle la time matrix en interne des recruteurs et des sourceurs pour qu'ils aient des plages dédiées à faire du sourcing plus divers. Ou typiquement, pour mettre des mots très clairs, de faire du sourcing de développeuses pour alimenter nos pipelines, pour s'assurer qu'on maximisait nos chances d'y arriver. Et donc ça c'est un investissement de temps qui est important et qu'on continue à faire. Et après, on essaie toujours d'augmenter notre visibilité sur toutes ces actions. Donc là, on va faire un meet-up le 16 juin dont je vous ai parlé peut-être en off. On pourra peut-être mettre le lien, etc., du meet-up Sororitech, je crois, qui est la semaine prochaine. Toutes les initiatives qu'on essaie de faire, on essaie de maximiser la visibilité avec notre équipe Marque Employeur.
Ok, justement, côté marque employeur, stratégie de sourcing, est-ce que vous avez mis en place d'autres choses pour mieux adresser les femmes, par exemple au niveau de vos annonces, mettre en avant des femmes, via des vidéos, du contenu, je ne sais pas s'il y a un travail qui a été fait avec les pôles market ou com, qu'est-ce que vous faites chez Doctolib?
On en fait sûrement pas assez, et parce que c'est aussi le début de beaucoup de choses, notamment de structurer des équipes qui ont du temps dédié à ça. Donc on recrute par exemple un poste de social impact lead qui va notamment à dédier du temps et de ressources pour travailler un peu plus sur le why de la diversité et de l'inclusion chez Doctolib, parce que c'est important. Nous, on est au niveau du recrutement, encore une fois, on est là pour exécuter un petit peu plus des choses sur le terrain. On a des leviers vachement importants, mais à un moment donné, pourquoi on veut plus de femmes, par exemple, chez Doctolib, etc. Tout ça, avoir un message. Évidemment, chacun a son avis personnel, mais l'important, c'est que l'avis personnel soit... contribue à une vision d'entreprise. Donc là-dessus, on est en train de se structurer vachement. Après, tu parlais des actions spécifiques. Par exemple, on fait pas mal de sessions de coaching dédiées justement sur notre process d'entretien. On s'est dit, OK, à quel moment est-ce que, quand on a une femme dans le process, comment est-ce que le panel peut être le plus divers possible et inclusif possible pour augmenter les chances de succès aussi, parce qu'on sait tous, et vous êtes mieux placés pour savoir justement tous les obstacles que peuvent rencontrer des femmes pour ne serait-ce que se dire « Ok, je peux faire ce job, une fois que je le fais, comment est-ce que je me forme, est-ce que je peux y arriver ou pas ?» Et donc, c'est pas simplement de sourcer ces femmes-là, mais une fois qu'elles sont dans le process, comment on maximise le chance, évidemment pas pour donner plus de chance qu'un autre, mais de simplement s'assurer que elles ont compris à quoi s'attendre chez nous, d'avoir un panel aussi un peu représentatif pour qu'elles se disent « Ok, chez Doctolib, peut-être que c'est un sujet qui est un peu plus concret que simplement des belles paroles ou un site web, etc. » Et donc, on fait aussi pas mal de sessions de coaching spécifiques, de feedback constructif avec les mêmes équipes Task Force, la Task Force Women in Tech chez nous.
Super intéressant. Non, mais c'est vrai. Après, là, c'est peut-être l'ancienne recruteuse ou pas. Qu'est-ce qui parle, mais c'est vrai que juste moi j'aimerais comprendre parce que c'est assez difficile. Il y a une frontière tenue entre le fait que vous êtes à la fois vous allez sourcer ces femmes-là, vous les évaluez parce qu'elles font et en même temps vous les coachez. Enfin, comment on fait pour garder cet équilibre-là entre le fait que bien sûr qu'on les coach pour qu'elles aient toutes les chances de faire tout le process, mais bon, quelque part, vous êtes aussi en charge de les évaluer par rapport à ça. Donc,
Bah, en fait, dans les actions qu'on met en place, au final, c'est jamais quelque chose de tellement différent que ce qu'on fait quand on coach notre meilleur candidat, qu'on a envie de faire, de rendre successful. Et il y a plein d'articles là-dessus sur l'approche demanding versus l'approche supportive. Et donc, en fait, l'expérience candidat, à la base, on veut que l'expérience candidat, elle soit supportive. C'est-à-dire qu'on veut ne pas piéger des candidats en entretien. Bien sûr. On veut leur permettre d'être à l'aise, d'être eux-mêmes, elles-mêmes en entretien. Donc ça, en fait, c'est vrai pour un homme, une femme, n'importe quelle personne qui postule chez nous. Donc une fois qu'on sait ça, on peut effectivement l'appliquer. Mais c'est vrai que dans le message, par contre, c'est important parce que ça peut très vite, souvent, on peut avoir des personnes qui disent « Ok, est-ce que vous m'avez contacté, par exemple, ou est-ce que vous voulez, moi, me briefer particulièrement parce que vous voulez juste augmenter un quota, par exemple, chez vous ?» Ou c'est quoi on peut se sentir un petit peu aussi, entre guillemets, utilisé quelque part à des fins un peu. Et ça, c'est important de dire à quel qu'aujourd'hui, et donc c'est tout le narratif du storytelling de pourquoi on fait ça, pourquoi on pense que en ayant une équipe plus diverse et inclusive, ça va nous permettre tous d'être meilleurs et presque ça renvoie à la complémentarité d'une équipe de recrutement entre du sourcing, de quelqu'un qui est fort sur un skill set bien défini. Donc, j'avoue, ça peut paraître un peu. On truque les cartes, je ne sais plus comment on dit, au poker. Bon, bref, que c'est bien, qu'on peut un peu jouer, manipuler un peu sur le truc. En fait, pas du tout. L'idée, c'est de se dire, on applique tout ce qu'on fait qui peut être sur l'expérience candidat pour n'importe quel candidat. Juste, on l'adopte à la réalité qui est celle des femmes aujourd'hui dans le monde dev. Elles n'ont effectivement pas autant de réflexes d'accès ou de ressources ou de modèles. Et donc là-dessus, bah, c'est normal de faire un effort complémentaire de notre côté pour s'assurer qu'elles aient autant de chances que les autres. En fait, c'est finalement juste d'avoir un pied d'égalité plus que de mettre quelqu'un en avant par rapport à d'autres.
Ouais, donc c'est vraiment l'équité. C'est très clair et effectivement, parfait. Nickel, très inspirant. En tout cas, bravo pour... ces initiatives, moi je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment top. Tu vois ce que tu disais sur le fait de se sentir utilisé ou stigmatisé, entre guillemets, ça me rappelle de ce que Alison Eastaway nous disait aussi sur le fait, par exemple, dans leurs OKR, ils ne mettaient pas d'objectifs chiffrés.
Ouais.
Parce qu'une fois que, effectivement, les équipes engineering étaient de plus en plus féminines, il ne fallait pas que la personne ait l'impression d'être numéro 5 dans l'OKR du quarter. Et dire, en fait, j'ai été recrutée parce que je suis juste l'OKR à ce moment-là, en fait.
Mais c'est vrai que c'est des débats intéressants. On en a tous les jours, même au sein de notre équipe, parce qu'on se dit, OK, l'équipe de sourcing... il y a des plages dédiées à du sourcing divers. On veut que notre funnel soit représentatif. Il faut le mesurer. Et à partir du moment où tu veux mesurer quelque chose, il faut se fixer des objectifs. Et donc, ça peut... En fait, tout dépend de l'intention, l'intent, je dirais, de ce que les gens... Est-ce que les gens ont l'impression qu'on le fait pour des bonnes raisons donc, c'est difficile. La frontière, elle peut être assez... Mais en vrai, que ce soit le contexte parité ou les minorités visibles... Enfin, voilà, moi, je fais partie d'une minorité visible. j'ai plein de fois, je me suis parfois posé des questions de ce type-là. Pas forcément, d'ailleurs, que dans mon milieu professionnel. Hein, dans la vie de tous les jours, on peut se poser cette question. Et en vrai, à chaque fois que je me dis, est-ce que ça me pose vraiment un problème ou pas? C'est souvent dans l'intentionnalité de la personne qui est en face. Et ça se maquille pas trop. On arrive à très vite sentir pourquoi les gens font les choses. Mais quand c'est une boîte de 2000 personnes, c'est tout le truc. On ne veut pas que ce soit une idéologie personnelle, mais ce soit quelque chose qui est au niveau partagé et une vision commune que tout le monde partage.
Génial.
Alors, sur quoi, du coup, vous souhaitez encore progresser? Parce que ça m'a l'air pas mal, tout ça.
Ouais.
Plein de choses qui sont mises en place.
Bah, en fait, il y a plein de trucs sur lesquels on veut progresser. On a conscience qu'on est d'ailleurs très, très loin. On a d'une part une espèce de politique où on se dit on n'a pas à rougir, on n'a pas à avoir honte de ne pas être à des objectifs, on va dire, standardisés sur le marché, etc. Parce qu'on on est de l'intérieur, on sait, et typiquement l'exemple que je vous ai cité, de dire qu'on n'est pas à 50% de parité sur tel ou tel poste, ça peut être vu comme « Ah, bah voilà, vous n'en avez pas fait assez, vous n'êtes pas assez ambitieux. » quand tu le vis de l'intérieur et que tu sais que l'effort que ça fournit, ne serait-ce que de maintenir, on est passé de 15 à 20, 21%, maintenir ça, voilà, ça c'est déjà, donc on assume plutôt bien ce fait de pas forcément toujours être aux objectifs, on est plutôt humble aussi, on surcommunique pas, et parfois moi je pousse d'ailleurs l'équipe employee branding, on fait des trucs super, pourquoi on n'en parle pas plus, parce qu'on veut attendre, on veut aussi avoir des vrais trucs à raconter, même s'il y a déjà plein de belles choses qui sont arrivées, et ensuite, ça s'arrête la diversité. Enfin, là, on parle de parité homme-femme un petit peu plus, donc c'est quand même un peu plus le sujet. Mais juste là-dessus, on sait qu'on est très 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 loin d'avoir des managers, des engineering managers ou engineering directors. On en a quelques-unes, mais pas assez. Donc, un des sujets, par exemple, ce sera comment on représente un petit peu plus les femmes à ces niveaux de poste. Donc, c'est bien d'avoir beaucoup de développeuses. C'est encore mieux de les voir représentées à d'autres niveaux de leadership dans la boîte. Et ça passe, pour le coup, là, pas que par du recrutement, parce que ça peut être des quick wins d'arriver de mettre quelqu'un à un poste comme ça. Mais c'est ça aussi, une fois, comment on fait progresser est-ce que les femmes qui travaillent chez Doctolib aujourd'hui ont les mêmes chances d'atteindre et de progresser vers des rôles de manager? Je pense que oui, dans l'absolu, mais si on regarde, etc., il y a sûrement des endroits où on peut s'améliorer.
Eh ben c'est une très belle transition,
ouais.
Puisque ça va être l'une de nos dernières questions, justement. Quelles sont vos interactions avec l'équipe People, justement, pour onboarder ces profils féminins et les faire progresser? Je ne sais pas si, du coup, vous êtes inclus aussi dans ces discussions-là, au niveau du recrutement.
Ouais. En fait, là-dessus, je pense que c'est encore tôt pour nous. En tout cas, c'est trop tôt pour que moi, j'ai des exemples très spécifiques à citer. Par contre, on en parle et on a déjà identifié des moments clés, par exemple... Enfin, l'arrivée de quelqu'un, mais presque, j'ai envie de dire, même presque la sortie de quelqu'un aujourd'hui. Et c'est un petit peu quand on disait l'expérience candidat. Une fois que tu sais ce que c'est qu'une superbe expérience candidat, pour n'importe qui finalement, homme, femme, n'importe quel être humain qui veut rentrer dans un process de recrutement, c'est plus facile après prendre la checklist et dire, ok, quand il s'agit de tel contexte, est-ce qu'on peut mieux faire? Et donc là, c'est un peu pareil, on a tout le step de l'onboarding ou de l'exit, et donc des moments très clés dans la vie, on va dire RH people d'une boîte, les exits, les sorties d'exit, on a des entretiens qui sont assez structurés maintenant pour savoir pourquoi les gens partent, quelles sont les actions de correction qu'on peut prendre en compte, quel est le feedback, et de l'adapter, de systématiquement le faire peut-être, déjà de le faire système, parce qu'on sait tous que parfois on a le temps, les ressources font que tu peux pas toujours le faire pour tout le monde aussi bien, mais par contre c'est peut-être important de se dire que quand c'est des populations sur lesquelles on a beaucoup investi et on veut surtout faire des progrès en termes d'inclusion derrière, peut-être pour ces personnes-là il faut s'assurer de faire un focus particulier, peut-être l'adapter ces exit interviews et avoir un follow-up plus précis sur les actions derrière qui en découlent. Après ça c'est plus la partie quand les gens sortent, malheureusement, on espère que ça n'arrive pas trop. Et après, dans l'onboarding, c'est un petit peu... aujourd'hui, je te dis, je n'ai pas les exemples concrets, mais je sais que quand on a des idées, on se dit, quand quelqu'un arrive, de récolter son feedback, de savoir pourquoi est-ce que tout ce qu'on a fait en amont pour le sourcing, pour l'expérience candidat, pour l'assessment, pour le coaching, est-ce que ça leur a vraiment servi? Est-ce que ça a joué en notre faveur pour leur décision? Et de pouvoir déjà corriger ce qu'on fait. Et après, derrière, oui, avec l'équipe People, je dirais que eux, sur toute la partie... l'environnement de travail, la com interne, c'est des sujets sur lesquels on est assez transparent entre nous. Donc en fait, dès qu'il y a un truc qui, par exemple, peut surprendre je dirais pas choquer, mais simplement ça peut être tout aussi bête que on a parlé de l'euro là et c'était une des premières questions. Ça paraît très classique pour une entreprise de dire c'est l'euro, donc faut que tout le monde soit à fond, tout le monde on parle du foot, etc. et c'est presque cliché de dire que par exemple ce sujet là va pas intéresser des femmes. Évidemment que ça intéresse des femmes, mais il y a plein d'autres trucs.
Je suis une très 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 grande fan de foot,
oui,
et j'embête tout le monde dans mes formations avec que des exemples de foot.
Et tu supportes quel club? Parce que moi, les équipes de nationaux, c'est bien, mais... Ah, ok, on va s'entendre.
Et toi, PSG aussi.
Je pense que vous savez. Que
ah bah oui, non, mais PSG, ça, c'est sûr. Oui. Mon fils qui a 8 ans, il était très Chelsea. Et donc, c'est la guerre à la maison. Voilà, il a 8 ans et on se bat.
Non, mais bon, du coup, c'était juste pour... C'est un exemple un peu gros, mais c'est pour dire que bah, dans... Il y a des réunions, il y a des moments où il y a des moments collectifs où on peut tous s'améliorer et en fait on reçoit ce feedback de manière constante et je pense que c'est un peu une force de la culture de la boîte de pouvoir faire ce genre de feedback et de pouvoir s'adapter. Donc l'équipe people, que ce soit l'équipe employer branding, com interne, formation, coaching, HR et évidemment recrutement, on a mis l'opportunité de bosser un peu mieux ensemble pour se donner un peu ces tendances-là.
C'est vrai que vu le nombre et puis la structuration, c'est aussi un challenge aussi de s'aligner. Je pense que vous l'êtes sur ces sujets-là, mais de pouvoir vraiment à chaque fois avoir les best practices au bon moment, c'est vrai que c'est aussi un effort.
Ouais, c'est parce que c'est toujours de penser à des choses qui voilà, ça nécessite un peu de s'aligner, d'avoir et de mettre en pratique des choses qui mettent du temps et de le suivre dans le temps et à côté de ça d'avoir des contraintes justement de croissance qui sont ultra fortes. Ouais. C'est tout le challenge pour nous.
Super.
Et c'est l'heure du pitch. Alors, tu vas, je te donne 5 minutes pour mettre en avant Doctolib, convaincre tous les profils féminins tech et non tech qui nous écoutent de rejoindre l'aventure Docto.
Très bien. Alors, j'avais pas anticipé celui-là, donc j'ai pas un pitch ultra préparé, mais je vais essayer de le faire en freestyle.
Surtout en 5 minutes, là, c'est plus long qu'une chanson.
Oui, alors, 5 minutes.
Ouais, 5 minutes, 2
gros,
minutes.
Un gros freestyle, là, c'est
2 minutes.
200 mesures. Non, bah écoute, je vais le faire un peu instinctivement. Allez, comme ça, ce que je dirais. Si j'avais, si j'avais une sœur, j'ai une sœur. J'allais dire si j'avais une petite sœur alors que j'ai une grande sœur. Okay. Mais bon, je pourrais quand même la conseiller, je la conseille. Donc, admettons que ma grande sœur me demande pourquoi elle devrait venir bosser chez Doctolib. C'était des féminins pour la tech, je sais pas si. Bon, elle sera pas tech, elle sera pas dev chez nous, mais clairement. en fait. Je pense que je mettrai pas en avant forcément voilà on a fait ça tu verras on est inclusif parce qu'on a je dis n'importe quoi cet espace dédié simplement pour ci ou on respecte ça on a une charte de ci ou de ça ce qui est intéressant hein, et ça je pense que les gens le verront mais je pense que il y a quand même un contexte de Doctolib est un je pense aujourd'hui on a une notoriété importante un produit qui a un impact ultra fort et j'aurais tendance à avoir le même discours que j'ai pour n'importe quel développeur ou n'importe quel profil qui veut bosser dans la tech. Qu'est-ce que veulent des personnes qui sont dans une filière tech? C'est de créer, de produire de la technologie qui est utilisée par le plus grand nombre et a un impact sur la vie de plus grand nombre. Et on a la chance chez Doctolib de réunir ces deux raisons, c'est-à-dire qu'on a des millions et des millions d'utilisateurs de notre produit, des patients, des professionnels de santé. Et en plus, c'est pour quelque chose qui a quand même un impact ultra fort. Après, de le faire alors que c'est des femmes, des hommes ou peu importe, c'est effectivement quelque chose qui peut être décliné avec des exemples plus concrets. Mais en vrai, j'ai envie de dire, c'est comme ce que je vous ai dit sur l'expérience candidat, sur n'importe quel sujet. À partir du moment où on est authentique et on est consistant dans notre façon de se dire, voici notre produit, voici l'impact qu'on veut avoir. On veut permettre l'accès aux soins au plus grand nombre. On veut faciliter la vie sur quelque chose qui est le plus important au plus grand nombre. On veut que quand on recrute, ce soit non biaisé, que les gens aient des émotions positives lors de notre expérience candidat. Ça, de toute façon, by design, les femmes l'auront ressenti. Et effectivement, il faut s'adapter. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus surjouer le truc. Et je ne serai jamais celui qui aura une espèce de bullet point de voir, nous, on a fait ça par rapport à eux qui ne l'ont toujours pas fait, etc. Parce qu'en vrai, au final, tu es une femme ou un homme. Ce que tu veux, c'est la même chose quand tu rejoins une boîte. Donc, c'est pas comme s'il y avait une carrière de femme versus une carrière d'homme, même s'il y a chacun a ses spécialités.
Eh ben, c'est un super beau... mot de fin, mais
si je l'avais préparé, peut-être que j'aurais eu des boulettes. Ouais. Mais voilà, c'est instinctivement ce que j'aurais envie de dire.
C'est parfait. Okay.
Mais c'est super pour terminer. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas mis, cette question, mais je vais te la poser. Qu'est-ce que tu apprendais le plus en sachant qu'effectivement, tu allais enregistrer aujourd'hui et finalement?
En fait, moi, je suis assez à l'aise pour parler des sujets que je maîtrise. Donc, je pense de manière générale que je maîtrise ce que j'ai dit aujourd'hui, mais par contre, j'ai toujours, quand on me parle de la diversité, évidemment ça me parle, je pense que j'ai même pas besoin de dire pourquoi, mais quand il s'agit d'un sujet par exemple de parité homme-femme, ma première remarque ça a été, j'ai peut-être plus envie de donner la parole à des personnes chez nous qui travaillent plus que moi sur ces sujets actuellement, potentiellement peut-être à des femmes d'ailleurs, qui auront une vision un petit peu plus complémentaire que la mienne. Mais c'était peut-être le seul point. Je me disais, en vrai, est-ce que je suis pas en train de parler au nom d'autres personnes qui auront peut-être des choses plus intéressantes que moi à dire? C'est le seul truc que je... Mais au final, je me suis rendu compte, parce que je suis allé leur parler un petit peu, et elles m'ont un peu donné des éléments, et en fait, je me suis rendu compte que c'est des éléments que j'avais en moi et que je sentais de manière très naturelle aussi. Donc au final, ça s'est bien passé, je pense.
Écoute, on te remercie.
Merci beaucoup, Rassam.
Merci à vous.
Et à très vite. Et si vous souhaitez postuler chez Doctolib.
Oui.
Ah là là, bien sûr.
N'hésitez pas à visiter le profil de Rassam. Et qu'est-ce qu'on fait exactement si on veut postuler?
Il y a des choses assez simples et classiques, comme aller sur notre site carrière et puis candidater sur les postes qui vous intéressent le plus. Il y a des choses un peu moins classiques, mais on est évidemment ouvert à ce que vous nous contactiez directement sur LinkedIn ou par d'autres plateformes, les recruteurs, les managers, et vous aurez toujours quelqu'un qui vous orientera vers la bonne personne assez rapidement.
Parfait.
À très bientôt pour un nouvel épisode.
Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à nous suivre, à partager et surtout, laissez votre avis sur notre podcast. À bientôt pour un nouvel épisode de Raise.